Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h pendant une heure. Nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, vous le savez, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Gaudy. Bonjour Hélène Gaudy.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Hélène Gaudy, vous êtes écrivain, c'est comme ça que vous vous définissez ?
Oui, on peut dire écrivain, écrivaine, autrice, voilà, il y a plein de mots maintenant.
Alors vous êtes tout ça, et vous publiez en cette rentrée littéraire un livre qui s'appelle « Un monde sans rivage ». C'est un roman qui retrace l'histoire tragique d'une expédition polaire à la toute fin du 19e siècle. Hélène Gaudy, vous avez choisi comme journée particulière le 27 octobre 2013. Ce jour-là, vous étiez à Copenhague, au Danemark.
Viking et petite sirène, pornographie et conte pour enfants, jolies filles et produits laitiers, un des plus hauts niveaux de vie du monde, un taux de suicide élevé. 4,5 millions d'habitants sur la superficie de 3 départements français, point culminant 173 mètres. Comme on le voit, des contrastes mais peu de faits saillants. C'est ici qu'Hamlet, prince de Danemark, pose la fameuse question « être ou ne pas être ».
Hélène Gaudy, pas mal comme début, non ?
Pas mal, on est tout de suite dans l'ambiance.
On est dans l'ambiance du Danemark. Qu'est-ce que vous y faisiez au Danemark en octobre ?
Alors c'était un week-end, c'était la première fois que j'y allais, un week-end à Copenhague pour découvrir la ville, tout simplement au départ.
Ouais. Et qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui vous arrive ce 27 octobre 2013 à Copenhague ?
Alors déjà, j'ai un souvenir de Copenhague comme d'une série d'endroits très séparés, d'îles très séparées. Je suis arrivée d'abord au parc Tivoli, dans une espèce d'ambiance complètement féerique, complètement étrange. Et ce qui se passe, donc, c'est dans une autre enclave, comme ça, un petit peu en dehors de la ville. C'est le musée Louisiana.
Magnifique musée.
Très bel endroit que j'ai découvert aussi pour la première fois.
Au bord de la mer Baltique, avec des pelouses qui se jettent dans la mer.
C'est ça, une grande maison avec des colonnades, un grand parc. Et là, c'est la rencontre vraiment avec des images.
La rencontre avec des images. Alors, il y avait une exposition ?
Alors, il y avait une exposition sur l'Arctique qui mêlait des œuvres d'art contemporain et des archives. Et là, c'est des images, finalement, d'archives qui vont me happer le plus. Elles sont rétro-éclairées. Ouais. Elles sont posées, je pense, sur une table lumineuse. C'est des négatifs agrandis. Et donc, elles ont une espèce de lumière, comme ça, très étrange, presque comme une projection. Ça m'a rappelé les lanternes magiques, un peu. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc déjà, ces images, même matériellement, elles rayonnaient, il y avait quelque chose de très vivant. Et c'est des images qui montrent des hommes en train de disparaître, comme la plupart des images en fait, mais là particulièrement, puisque c'est des explorateurs qui marchent vers leur disparition en quelque sorte. Ça, je l'ai appris un petit peu après.
Mais qu'est-ce que représentait cette image ?
Alors ce qu'on voit en fait, il y en a plusieurs, on voit des silhouettes.
Ouais.
On voit des matières, on voit du blanc, du noir, on voit comme des crépitements, comme des taches.
Noir.
Et noir, gris, un petit peu toutes les nuances de gris. Et on voit des silhouettes qui ont vraiment des allures de fantômes. Certaines sont presque effacées, on pourrait presque voir à travers. Et en même temps, ces silhouettes, elles nous regardent. Il y a quelque chose de très troublant dans ce regard en fait de ces hommes qui ont l'air à moitié effacés déjà, à moitié évanouis, et en même temps qui sont là, quoi, qui nous regardent et qui sont mangés petit à petit, avalés par
le temps,
par la lumière, par les zones d'ombre aussi des photographies.
Et c'est ça qui vous arrête, Hélène Gaudy, ce jour-là, vous vous arrêtez devant ces images ?
Vraiment, je m'arrête et il y a leur présence et il y a la matière, il y a vraiment ces deux choses-là. Et leur présence qui est forte alors qu'elle est aussi effacée par la matière. Il y a vraiment ces deux choses-là. Et la matière, c'est un paysage qu'on devine, qu'on voit pas bien. Mais on devine la force, en fait, de ce paysage dans ce qui reste de tout ce blanc, en fait, qui dévore l'image, qui avale l'image.
Hélène Gaudy, vous avez apporté quelques-unes de ces images que vous avez rapportées du Danemark en carte postale. Celle-là, vous êtes arrêtée devant celle-là, donc là j'ai la carte postale. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? D'abord, on a l'impression que c'est brumeux, c'est du gris, vous avez raison, c'est des nuances de gris, c'est quelque chose qui est effectivement en train de disparaître, d'être pris dans la brume.
Tout à fait, oui.
Et là, qu'est-ce qu'on voit?
On voit une forme noire très grande, qu'on devine être un ballon, qu'on voit plus ou moins, parce qu'il y a toute une série d'images du ballon. Il y en a une qui est sur la couverture du livre, d'ailleurs. On voit ce ballon comme une espèce de monstre, une espèce de forme noire très grande. Et puis on voit les silhouettes des hommes à côté qui donnent un petit peu une échelle au paysage, puisque d'un coup, on découvre qu'il y a un ciel, on découvre qu'il y a un sol. Parce que eux, ils sont là pour nous le montrer.
Leurs pieds.
C'est ça. Leurs pieds nous ancrent un petit peu dans ce lieu-là. Et puis dans ces deux personnages, il y en a un qui fait un geste, qui s'avance vers ce ballon. Alors, c'est des photos qui sont mises en scène. À l'époque, il fallait rester longtemps devant un appareil pour pouvoir être saisi sur une image. Mais quand même, on voit qu'ils mettent en scène justement cette sidération, cette panique sans doute, parce que ce ballon vient de tomber
du
ciel.
Voilà, c'est ça, parce que ce ballon est avachi, d'une certaine
manière.
Voilà,
il est par terre.
Il est par terre et ils regardent leur ballon par terre.
Tout à fait.
Et cette image, c'est l'image donc de ces trois hommes qui sont partis en expédition polaire. L'expédition polaire s'appelait l'expédition André en 1897.
C'est ça.
Qui sont partis en juillet et qui ne sont jamais revenus, dont on retrouvera les corps, les carnets, les journaux et les photos 30 ans plus tard.
Voilà.
C'est cette histoire-là qu'on va vous raconter jusqu'à 15h. En 2013, on écoutait avec plaisir la pianiste et chanteuse Agnès Obel.
Blessing in disguise.
Hélène Gaudy, Agnès Obel, danoise elle aussi, pour nous accompagner dans cette expédition polaire donc qui a eu lieu à l'orée du XXe siècle, et c'est votre journée particulière, jusqu'à 15h sur France Inter. C'était donc le 27 octobre 2013. Hélène Gaudy, vous êtes dans ce musée formidable Louisiana de Copenhague et vous découvrez ces premières images de ballons à hydrogène avec des hommes autour, de ballons par terre.
Échoués.
Ouais. Échoués. Mmh. Et vous pensez que c'est la fin déjà, vous y voyez déjà la fin de leur rêve. Et ces photos seront pour vous, Hélène Gaudy, le point de départ, en fait, de votre roman Un monde sans rivage. C'est, vous allez tirer le fil, vous allez chercher quelque chose dans ce blanc, dans cet effacement des photos.
Oui, tout à fait. J'ai vraiment, j'ai su que j'allais écrire sur ces images tout de suite, vraiment dans le musée. Je l'ai dit à mon compagnon avec qui j'étais dans le musée, j'ai dit c'est pas possible, c'est cette histoire, enfin cette histoire que j'ai apprise dans les grandes lignes, puisqu'il y avait des petits cartels qui expliquaient leur histoire, mais surtout ces images, ça je l'ai peut-être compris plus tard, mais ce qui m'a happé aussi je pense c'est le fait qu'il y ait beaucoup de vide justement dans ces images, beaucoup de blanc, et je sentais que l'écriture pouvait se glisser dans ces blancs-là. C'était des images où il y avait un hors-champ qui était énorme, on pouvait tout inventer, on pouvait tout imaginer. Et en même temps, on avait déjà de la matière. Enfin, il y en a sur les images, il y en a dans l'histoire. Et plus j'ai avancé dans, plus j'ai appris de choses sur leur histoire, plus je trouvais de matière, plus je me rendais compte que c'était une histoire complètement folle et extrêmement romanesque déjà au départ. Mais c'est vrai que c'est vraiment les images, la matière du texte pour moi.
Alors, on va essayer de replacer cette expédition André, donc c'était l'expédition polaire André, on va essayer de la replacer très rapidement dans son contexte, mm-hmm. donc fin du 19e siècle.
Ce sont les anciens Vikings qui, les premiers, entrèrent en contact avec la glace polaire lors de leur découverte de l'Islande et du Groenland. Ce sont eux qui furent les premiers à apprendre que ce n'est pas le froid en soi qui tue l'homme, mais bien la neige, le blizzard, la banquise et les icebergs. Dans ce pays fantomatique où le cerveau des hommes et celui des chiens peut être dérangé jusqu'à la folie, cette folie arctique que les Esquimaux appellent Piblokto. Quand Christophe Colomb eut prouvé en 1492 que la Terre était ronde, les hommes se tournèrent vers le nord dans l'espoir de trouver un passage qui les conduirait aux Indes. 400 ans, néanmoins, devaient s'écouler avant qu'un homme pût atteindre ce curieux point situé sur le toit du monde. Ou n'ayant qu'un pas à faire pour atteindre le nord, son second pas le ramène instantanément vers le sud.
Hélène Gaudy, c'est une archivina de 1962, délicieuse archivina. L'expédition André a lieu à une époque où on veut, où on désirait attraper le monde.
Oui, il y a vraiment une espèce de ferveur comme ça à ce moment-là, et on l'entend bien dans l'archive aussi, une compétition aussi. Et c'est vrai que les Nordiques, les Suédois, les Danois, les Norvégiens se considèrent comme les plus aptes aussi à défricher le Nord, puisque c'est quand même leur domaine. Et il y a une folie comme ça aussi un peu qui vient du rêve, mais qui vient aussi d'une volonté de dominer, de posséder le monde.
De répertorier, de cartographier.
Aussi, voilà, de tout connaître et de tout voir. C'est ce qui m'a frappé aussi petit à petit en voyant d'autres photos aussi, c'est qu'on est dans un moment où la photographie prend son essor, il y a le cinéma qui arrive aussi, enfin on est dans un moment où il faut que le regard de l'homme soit porté absolument partout, qu'il n'y ait plus de recoins invisibles. Et ces hommes-là, c'est ça qu'ils veulent faire, ils veulent aller porter l'œil de leur appareil photo dans ce nord où on l'entend aussi dans l'archive, on ne sait pas encore vraiment à quoi ça ressemble.
Oui, c'est ça. Quelle représentation on avait du pôle Nord à la fin du 19e siècle ?
Alors à ce moment-là, il y a Nansen qui va assez loin aussi dans les mêmes eaux, et on commence à se douter, à savoir rationnellement en tout cas, que le pôle Nord n'est pas un continent en fait, que c'est un point abstrait. Mais c'est très décevant, et on sort de beaucoup d'années où on a rêvé ce continent en fait, ce continent imaginaire où il aurait pu y avoir des habitants, où c'est presque la planète Mars. Enfin, ouais. On rêve vraiment un monde. Il y a la théorie aussi de la Terre creuse, où il y a des gens, même des scientifiques, qui imaginent qui pensent que la Terre est creuse à l'endroit des pôles et qu'on peut rentrer dans un univers souterrain. Donc il y a tout un imaginaire, il y a Jules Verne, il y a voilà toutes ces images là. Et eux, c'est à la fois des scientifiques et en même temps ils sont dans dans cette espèce de rêve encore qui est pas complètement terminé.
Alors ils partent le 11 juillet 1897. Ils sont trois. Ils s'appellent Salomon Auguste André, Knut Frankel et Nils Strindberg qui prendra les photos. Donc ils s'envolent en ballon à hydrogène après avoir longtemps attendu des vents favorables. C'est le début de l'aventure. Le chef de l'expédition, c'est Salomon Auguste André et il écrit dans son journal, vous le citez hein, dans votre livre, vous avez repris des extraits des journaux. Alors dans son journal daté du 11-12 juillet 1897, il écrit « Pas de terre ferme en vue, l'horizon n'est donc pas clair. C'est en vérité un étrange voyage. Un oiseau des tempêtes est venu tout près de la nacelle. Café préparé en 18 minutes, sucer les tenailles, oiseaux des tempêtes arctiques, pluie de petits pois. » On dirait de la poésie.
J'aime beaucoup Hélène cet Gaudy. Extrait. C'est de la poésie.
C'est de la poésie pour nous parce que le temps a passé et c'est ça que je trouve très beau moi dans leur journal. C'est un petit peu comme sur les photos en fait. Ça devient presque des images abstraites.
Ouais.
Et leur langue devient de la poésie parce que on la comprend plus vraiment comme ils ont pu vouloir l'écrire à ce moment-là. Parce que leur langue nous paraît étrange et puis aussi parce que c'est des notes qui devaient avoir besoin d'un contexte et le contexte elle n'est plus là. Donc effectivement, on se demande de quoi ils peuvent bien parler par moment. Mais ça crée de la poésie, ce décalage-là, oui.
Vous êtes beaucoup inspiré, vous avez lu leurs journaux, vous avez lu les trois journaux. Il y avait trois journaux, les trois.
Alors, il y a celui d'André qui a été édité dans les années 30, donc moi je me suis basée surtout sur celui-là. Nils Strindberg en a fait un aussi, mais dont il n'y avait que des extraits publiés, reproduits, donc j'ai pas eu accès à l'intégralité de son journal. Et Knut Frankel, il était un peu plus cantonné aux prévisions météorologiques, aux notes vraiment scientifiques. Mais André a fait un journal qui est très détaillé et voilà, qui a un côté presque surréaliste, parce qu'il mélange les petites aventures culinaires, les relevés très précis, très poétiques de la texture de la neige, de la couleur des plumes d'un oiseau, et tout ça avec une espèce d'optimisme,
de légèreté,
complètement, impossible à déraciner jusqu'au bout. Et tout ça est très étrange et très beau.
Qu'il est étrange de passer ainsi au-dessus de la mer polaire. Être les premiers à survoler ces étendues inexplorées. Dans combien de temps aurons-nous des imitateurs? Serons-nous considérés comme des fous? Ou suivra-t-on notre exemple? Je ne puis nier qu'un sentiment de fierté nous domine, mes deux compagnons et moi. Il n'est pas discutable que dans cette aventure, nous risquons notre vie. Mais nous pouvons mourir, puisque nous avons fait ce que nous avons fait.
C'était une archive de l'émission Au fil de l'histoire sur France Inter de Stéphanie Duncan. C'était en 2010. Elle a consacré toute une émission à cette expédition polaire, cette tragique expédition polaire. André, ces hommes, ces trois hommes voulaient marquer l'histoire, voulaient laisser leur empreinte.
Oui, à un moment, André, à ces mots, dit qu'il voulait sortir de la chaîne commune. Il y a cette idée de vouloir être unique et sortir de la masse des hommes et de s'élever. C'est aussi ça. Et finalement, ce qui est beau aussi dans leur histoire, c'est qu'ils veulent absolument s'élever, ils veulent voir de haut, ils veulent dominer.
Ils veulent prendre des photos aériennes.
Voilà, tout à fait, ils veulent cartographier. Et finalement, ils se retrouvent à faire l'inverse, puisqu'ils tombent, ils sont au ras du sol, ils sont dans la neige, et ils vont raconter au contraire ce qu'ils peuvent encore raconter, ce qui peut encore faire un récit. Sans doute ce qui leur permet de survivre aussi, c'est de raconter, c'est de prendre des photos.
De mettre de la distance, ils racontent leur quotidien. Ils étaient partis pour la grande aventure, faire découvrir un autre monde. Et ils vont nous raconter par le menu ce qu'ils mangent.
Tout à fait, ce qu'ils mangent, ce qu'ils découvrent. Ils vont essayer de trouver des espèces. Alors ça peut même être du plancton, des algues, des toutes petites choses. Mais c'est ça aussi, c'est une sortie de route en fait. Ils étaient partis pour un but tout tracé. Et leur échec, ça va fabriquer autre chose. Et il y a beaucoup d'expéditions comme ça, en fait. Il y a beaucoup de ratés. J'ai vu qu'il y avait un livre sur les ratés de l'aventure qui est sorti il y a quelques mois. Et finalement, ces ratés-là, ils vont produire à chaque fois. C'est-à-dire, quand on échoue, qu'est-ce qui se passe? En quoi on transforme ça? Et eux, ils le transforment en cette aventure beaucoup plus au ras du sol.
Au ras de la banquise.
Voilà, au ras de la banquise. Alors par contre, ils s'épanchent pas, hein, c'est vraiment, il y a jamais de plainte, il y a jamais
de peur,
on sent vraiment des toutes petites choses. À un moment, André écrit, Ces contrées polaires sont le berceau des plus grands embêtements. Ouais, c'est presque ça. La plus grande plainte qu'il va proférer.
Et ils vont en mourir, hein. ils vont mourir sur place. Ouais. Alors les plus grands embêtements, ça paraît un peu mineur comme tout façon de dire. Ce qu'on n'a pas dit, Hélène Gaudy, c'est qu'ils s'envolent donc, et deux jours après, ils s'écrasent avec leur ballon. Ça, c'est l'image qui vous retient. Et alors, ils vont d'abord rester quelques jours sur place à essayer de... Je pense,
il reste assez longtemps sur place, remettre aussi quand même, je pense, de
leur échec. Et puis ils vont être obligés de. Ils avaient emmené plein de choses dans ce ballon. Ils comptaient y vivre. Ils vont être obligés de faire un inventaire parce qu'ils vont décider de partir marcher pour essayer de trouver une terre ferme. Et ils vont faire un inventaire de ce qu'ils avaient dans cette nacelle. Et là, on a un peu l'impression d'arriver chez les pieds nickelés, quoi. Ils ont du champagne, du whisky, de la bière, des cravates en soie, un foulard rose, des nappes brodées.
Oui, et puis ils arrivent pas à s'en séparer. Ils vont, pendant les 3 mois où ils vont marcher quand même, tirer tout ça derrière eux. Faut imaginer, ils ont chacun un traîneau, ils ont un canot en plus. Puis la banquise, c'est pas plat. Il y a des reliefs. Des fois, ils doivent franchir des murs. Donc, ils doivent très, voilà. C'est vraiment un tour de force quand même. Parce que, ils ont un côté pieds nickelés, mais quand même, ils y arrivent. Quand même, ils le font. Et ils tiennent 3 mois, ce qui est quand même pas rien.
Alors, ils traînent quoi? Leur nourriture, voilà, des vêtements.
Toutes ces affaires inutiles qu'ils avaient emportées parce qu'ils espéraient un retour triomphal au bout de 3 jours ou quelques jours de vol.
Donc, ils avaient les vêtements pour leur triomphe.
Oui, c'est ça. Ouais. Et ils n'y renoncent pas complètement jusqu'à la fin. C'est ça qui est quand même assez fou. Ils les gardent. Ils gardent leur cravate. Ils gardent tout ça.
En soi.
Voilà. Et même quand ils marchent, même sur les photos, on les voit, ils ont l'air de gentleman farmer, ils sont tout à fait chics, ils sont pas du tout comme on voit d'autres explorateurs, vraiment mitouflés dans les fourrures et tout. Non, non, eux, ils ont des vestes en tweed, ils ont des casquettes, ils ont...
Et... Ils avaient froid?
Ils paraissent pas avoir tant que ça souffert du froid, étrangement.
Ils n'ont pas du tout des vêtements
parce qu'ils se donnent beaucoup, enfin, ils se dépensent beaucoup. Mais évidemment, quand la nuit polaire va venir, là, c'est plus possible et on sent bien que... Voilà, qui sont à la fois, ils se veulent très pragmatiques, c'est des ingénieurs, ils ont quelque chose comme ça, très scientifique, très carré. Et en même temps, c'est complètement fou leur histoire.
Complètement fou. Donc ils vont marcher, c'est l'été polaire. Ils vont marcher dans la neige, dans la glace, dans un paysage qu'ils n'avaient jamais vu encore, dans cette blancheur éblouissante. Est-ce que vous acceptez, Hélène Gaudy, de me lire un extrait de votre livre, là, page 137 ?
Ils marchent, et si la neige est silencieuse, le reste crie et craque. Ici, le silence n'existe pas, sans cesse quelque chose grince à leurs oreilles, les oiseaux quand ils passent, les brisures de la glace et puis surtout, le vent, assourdissant quand il se lève, vicieux quand il se calme, les rares plages paisibles effilant le souffle qui reprend, en faisant un gong, une lame, une feuille de boucher aiguisée à la glace, ils ne s'entendent plus alors, ne peuvent plus se parler, ni rire, ni même hurler de désespoir. Au cas où l'un d'entre eux tomberait à l'eau ou se perdrait, dans ces journées épaisses où le vent précipite la neige dans les trous du visage, ils se munissent d'un sifflet, un pauvre sifflet dont jouent les policiers et les enfants, pour souffler dedans s'il leur arrive quelque chose, pour alerter les autres, pour trouer le vacarme du son grêle de leur instrument. Parfois, ils brisent la glace à coups de hache, pour vérifier son épaisseur, pour franchir un mur trop haut, trop acéré, sans doute surtout pour le frapper, ce paysage, pour le briser de leur lame.
Alors le paysage aura raison d'eux. Ils mourront dans ce paysage et on retrouvera leur corps 30 ans après. Parce que c'est ça aussi le caractère romanesque dans cette histoire. C'est qu'ils vont marcher, ils ont le caractère pieds nickelés, ne jamais se plaindre, toujours rester dans une forme de légèreté, observer, documenter son quotidien. Ils vont mourir, pris dans les glaces, et ils seront retrouvés par hasard, par un baleinier.
Par miracle, plus de 30 ans après. Et puis ça a été un fait divers quand même qui a fait la une de l'illustration, qui a un petit peu agité le monde de cette époque. On les a quand même assez longtemps cherchés. On imaginait qu'ils s'étaient retrouvés en Sibérie. On trouvait des traces qui n'étaient pas les bonnes. Des pigeons voyageurs qui sont arrivés des années après sur des côtes.
Parce qu'ils avaient des pigeons voyageurs dans leur ballon à hydrogène.
Tout à fait. Et certains ont trouvé leur chemin et sont arrivés 2-3 ans après avec des messages qui disaient « Nous sommes de la meilleure humeur qui soit » ou ce genre de choses. Et donc oui, ça a été un mystère quand même, vraiment, pendant longtemps. Et non seulement on finit par les retrouver, mais on retrouve ces images. Et c'est, moi, c'est ce que je trouve complètement bouleversant aussi dans ces photographies, c'est que je me dis, ils se tiennent face à l'appareil, ils se tiennent face à quelqu'un qui, hypothétiquement, va les regarder un jour. Et ces spectateurs-là, c'est nous aussi. C'est moi quand je découvre ces photos et c'est toutes les personnes qui vont regarder ces images. Et c'est aussi ce regard-là de l'avenir qui les fait se tenir droit, qui les garde debout. Parce que c'était quand même tellement fou d'imaginer que ces négatifs qui étaient là, enterrés sous la neige, au point le plus au nord du monde, allaient un jour être retrouvés, développés et se retrouver voilà, dans un livre, dans des expositions tellement d'années plus tard. Alors bien sûr, ça les a pas sauvés, ça n'empêche pas leur fin tragique. Et ce paysage qui a raison d'eux, alors qu'ils étaient là justement pour le voir de haut, pour le rétrécir, le cartographier.
Il va l'avaler.
C'est ça, et ça leur procure aussi des vrais moments de beauté qui sont pas des projections personnelles que je fais sur leur histoire, mais qu'ils racontent vraiment eux-mêmes. Jusqu'à quelques jours avant leur mort, ils écrivent encore à quel point tout est sublime, tout est beau, il y a vraiment des vrais moments comme ça ils se laissent aller dans ce paysage qui va avoir raison d'eux, mais ça suscite aussi des moments de beauté qui évidemment n'auraient jamais existé s'ils étaient restés dans leur ballon.
Alors je vous cite, en prenant les images, en ramassant la mousse, ils nous regardent déjà les regarder et ils ne sont plus seuls tout à fait.
Oui, il y a cette recherche d'un regard et c'est vrai qu'on a l'impression d'être ce regard quand on voit ces images, ou même quand on les lit, on sent que c'est adressé à quelqu'un, c'est adressé à la postérité, mais aussi à toutes les personnes qui vont poser les yeux sur leurs notes. Et ça, je trouve que ça tire vraiment un fil très tendu entre eux et nous, et aussi entre leur monde et le nôtre, qui est finalement une espèce d'évolution, voilà, de leur vision du monde. Ça a donné aussi le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça qui nous concerne aussi dans cette histoire.
Le jour, Hélène Godie, où vous vous arrêtiez devant ces photos au musée Louisiana de Copenhague, ce même jour, le 27 octobre 2013, Lou Reed disparaissait.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you
You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Lou Reed, Hélène Gaudy, pour se faire plaisir.
C'est vraiment une de mes chansons préférées, donc ça tombe très bien.
Et vous l'avez écouté ce 27 octobre 2013 à Copenhague, quand vous avez appris qu'il était mort?
J'ai souvenir de la une du journal en danois, donc je ne comprends pas le danois, mais j'ai d'abord appris sa mort par un titre danois. Et oui, c'est vraiment une chanson qui a compté dans ma vie à plusieurs moments. Et donc je me rappelle d'avoir été vraiment triste de sa mort et puis de toute une époque aussi, voilà, qui s'est terminée un petit peu pour moi avec lui. Ouais.
Mais quelle coïncidence quand même, ce jour où vous tombez sur ces photos de l'expédition polaire André. C'est en même temps le jour de la mort de Lou Reed. Et il se passe encore autre chose ce jour-là pour vous, ce 27 octobre 2013, Hélène Gaudy. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous en souvenez si précisément?
Alors, j'ai fait le rapprochement plus tard, pour vous dire la vérité, mais c'est un jour que j'ai raconté en fait dans mon livre précédent qui s'appelle Une île, une forteresse, parce que dans cette gare de Copenhague où j'étais à ce moment-là, où je venais de découvrir donc sur un journal la mort de Lou Reed, j'ai eu l'impression de croiser un des écrivains qui a le plus compté pour moi, qui s'appelle Zebalt, W.G. Zebalt. Parce que il y avait vraiment son sosie dans cette gare, un sosie qui était en plus habillé en bleu de travail, donc qui avait vraiment l'air de vouloir passer incognito. Et Zebald est un auteur qui a beaucoup joué avec les faux semblants, avec la fiction, et qui était très discret aussi avec son image, et qui était mort au moment où j'ai croisé cet homme.
Oui, il était mort depuis 13 ans.
Voilà, il était mort depuis 13 ans, mais j'ai vraiment eu l'impression de le voir revenir, et c'est une rencontre que j'ai racontée donc dans mon livre précédent. Et tout ça, c'est un petit peu lié. Et j'ai réalisé plus tard que ce jour que j'avais raconté dans mon livre et qui était le jour de cette rencontre étrange avec ce sosie improbable de Zebalt était aussi le jour où le roman d'après était né, en fait, avec la rencontre avec ses photographies.
Alors, quand on pense à votre travail, W.G. Zebalt, on pense à la fascination que vous éprouvez, il me semble, pour les traces que laissent les hommes. À quel moment de votre vie avez-vous commencé à être absolument captivé par les traces des hommes?
I think it goes back a very long way for me.
Oh, ça remonte à très très loin.
And it certainly has,
ça a à voir avec la relation que j'avais avec mon grand-père. Il est décédé quand j'avais 12 ans.
Who died when I was 12. And I was very close.
J'étais très très proche de lui. Il m'a élevé.
And I've missed him.
Il m'a manqué dès sa disparition et il continue à me manquer.
And it had something to do with the absence.
Ça a à voir avec l'absence, avec le besoin que l'on a de quelqu'un qui, jour après jour, n'est plus là, même si les objets de sa vie sont toujours palpables. Ses écrits, ses notes, ses livres de recettes. J'ai toujours été fasciné de voir à quel point les éléments matériels de la vie d'un homme ont une durée de vie bien plus longue que la vie de cet homme lui-même. Et c'est pour ça que je me suis intéressée aux traces qu'un homme laisse derrière lui.
Hélène Gaudy, W.G. Zebalt occupe une place très importante pour vous dans votre imaginaire, dans la littérature. La littérature, pour vous, c'est un homme qui a beaucoup compté et c'est un homme qui vous a mis sur les traces de Theresienstadt. Et de la même façon que lui, je pense que Hélène Gaudy, vous êtes très intéressée, enfin vous interrogez sans arrêt les traces.
Tout à fait, il y a quelque chose de très beau, c'est émouvant d'entendre sa voix déjà, c'est rare, je l'entends rarement.
Oui, alors c'était Cosmopolitaine, l'émission de Paula Jacques, et c'était Sylvie Coulon qui l'interviewait en 2010.
Et c'est vrai que ce qu'il dit sur ses traces matérielles, je trouve ça éclaire beaucoup ce qu'il travaille dans son œuvre. Parce que ce qu'il ne fait jamais, Zebalt, c'est d'essayer de combler les trous. Il fait avec, et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Justement, il va se baser sur ce qui reste, sur ce dont on dispose. Donc, des objets, des photographies, des bribes de textes. Et il va faire avec ça, il va monter tout ça, en fait. Et du frottement entre tout ça va surgir une présence, une survivance, quelque chose qui reste. Mais il est jamais dans la reconstitution, il va pas essayer de nous faire sentir ce qu'on pu ressentir des déportés, par exemple, jamais. Par contre, il rend apparentes les traces, il y a quelque chose qui sort de ces traces.
C'est un peu ce que vous faites aussi, Hélène Gaudy.
Je pense que la lecture, notamment d'Austerlitz, le premier livre que j'ai lu le premier qui m'a à ce point-là marqué de Sebald, m'a fait prendre conscience, en fait, de beaucoup de choses. Et sans doute, bien sûr, ça a influencé ma manière de travailler, à partir de l'histoire. Avant ça, j'avais écrit des romans, mais j'avais pas encore essayé d'interroger, justement, des documents, des archives, de la parole aussi des gens. Et il m'a aidé en fait à saisir un fil qui rapprochait de moi une histoire, en l'occurrence celle de la Seconde Guerre mondiale, qui m'avait jusque-là semblé très lointaine, vraiment appartenir à un pan très éloigné de l'histoire, justement, avec un grand H. Et d'un coup, par cette ce tissage, voilà, vraiment patient qui fait du document et de la voix qui rapporte des témoins, il y a quelque chose qui s'est rapproché, que j'ai eu l'impression de pouvoir toucher. Et il y a que quand ça passe comme ça à travers nous qu'on arrive un petit peu à ressentir, qu'on peut restituer dans un livre. Et c'est lui qui m'a donné ça, je pense, d'arriver à saisir quelque chose pour après tenter d'en faire autre chose à mon tour.
Alors c'est lui qui vous a donné envie d'aller à Térésine, à 60 km de Prague, pour essayer de retrouver des traces du ghetto modèle qui avait été Theresienstadt. Et vous en avez fait un autre roman, c'était votre roman précédent. Vous êtes allé interroger les habitants de Térésine aujourd'hui, qui vivent dans les anciennes cellules, les anciennes prisons de ce ghetto modèle. Qu'est-ce que c'était, Theresienstadt, Hélène Gaudy? C'est le nom de quoi?
C'est très complexe, Theresienstadt. Même les historiens ont du mal à déterminer si c'est vraiment un ghetto ou un camp. C'est un petit peu les attributs des deux. C'est un endroit où on a parqué des gens, hein, quand même, pour le dire de manière très simple. C'était l'antichambre d'Auschwitz aussi et d'autres camps de l'Est. Et ça a été un lieu de propagande, puisque les nazis ont fait croire que ce lieu-là était un ghetto modèle, donc un lieu où les juifs étaient très bien traités. Et ils ont été pour entériner leurs mensonges jusqu'à faire un film de propagande où ils obligent les déportés à jouer leur propre rôle, mais comme si tout était formidable et comme s'ils pouvaient aller au théâtre, les enfants jouent, etc. Et ce qui est aussi très ambigu dans ce lieu-là, c'est qu'il y a une vraie vie culturelle qui a été très très foisonnante à Theresienstadt. Il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup de gens connus qui étaient enfermés là, parce qu'on pouvait encore, l'opinion internationale, si elle s'inquiétait de leur sort, ce lieu semblait plus présentable que d'autres. Donc on parquait là beaucoup de personnes, voilà, un petit peu en vue ou qui avaient fait des choses, beaucoup d'artistes. Et donc il y a eu une vie culturelle complètement folle qui s'est développée là, et qui a été encouragée aussi par les nazis, parce que ça contribuait à rendre leur vitrine, leur propagande plus reluisante. Donc là, c'est très ambigu, parce que c'est à la fois une forme de survivance. Les gens pouvaient trouver dans l'art, dans la littérature, dans les spectacles, un lieu habitable, un endroit de survivance, et en même temps, ça servait la propagande.
Ça servait la propagande et c'était l'antichambre d'Auschwitz. Alors il y avait des opéras, pièces de théâtre.
Il y avait jusqu'à 10 spectacles par jour, c'était fou.
De la musique, un orchestre. Et tout le monde a été trompé, parce que quand la Croix-Rouge internationale viendra visiter Theresienstadt, ils trouveront que le sort des Juifs est correct et ne verront rien à redire à ce camp. Alors justement, juste avant la visite de la Croix-Rouge internationale, on avait repeint c'était une ancienne forteresse, toute la forteresse, on avait un peu type village Potemkin.
Tout à fait, ils avaient vraiment créé un décor, des fausses marchandises dans les magasins, alors qu'il y avait une pénurie évidemment, voilà, tout était faux, tout était provisoire aussi, des jardins d'enfants qui ont été détruits le lendemain de la visite.
Voilà, et dans ce décor, dans cette ville repeinte, dans cette fausse ville, fausse forteresse, les nazis ont tourné un film.
Le titre du film, Le Führer fait don d'une ville aux Juifs. Alors, regardez bien, voyez ce qu'on peut faire avec une caméra. Le film commence dans un beau jardin. Les participants sont robustes et pleins de santé. Ils ne sont arrivés à Theresienstadt que depuis quelques jours. Et, raffinement dans la cruauté, les SS leur font croire, tout le temps qu'a duré le tournage du film, qu'ainsi sont les camps de concentration, des asiles confortables. Le commentateur dit « Les jardins fournissent aux familles juives tout le nécessaire en fruits et légumes. » Ce que le commentateur ne dit pas, c'est que ce potager était réservé aux SS. Quiconque volait, ne serait-ce qu'une pomme de terre, était aussitôt expédié à Auschwitz. Voici une autre séquence du film. Ici, la musique et le montage des auteurs du film ajoutent encore aux images. Cette musique que vous allez entendre est d'Offenbach. Offenbach qui était juif. Mais écoutez et regardez.
Alors là, c'est terrible. Hein, sur cette image, dans le film, Hélène Gaudy, on voit des gens travailler en rythme hein, sur Offenbach. C'était un extrait de 5 colonnes à la une qui diffusait en 65 pour la première fois ce film. Et Hélène Gaudy, je me demandais si vous vous étiez interrogée à Theresienstadt, comme vous êtes interrogée à... comme vous êtes intéressée à cette expédition polaire, si c'était pour... si vous interrogiez les traces, est-ce que c'était pour réparer quelque chose de l'histoire? Est-ce que vous avez une volonté de réparation?
J'avais d'abord, je pense, une volonté vraiment de comprendre ces images, les images de propagande dont on vient d'entendre parler, et de chercher... encore une fois, les traces, la survivance d'autre chose. Parce que finalement, ces images, elles montrent quelque chose de faux, des gens qui jouent un rôle. Mais elles montrent aussi derrière ça, derrière le mensonge, derrière la propagande, on voit aussi les visages de ces gens, des regards qui échappent à la caméra, qui cherchent aussi à alerter ceux qui verront ces images. Et bien sûr, même si le contexte n'a absolument rien à voir, dans les images de l'expédition comme dans celle-là, il y a cette dimension d'essayer de tirer ce lien en fait qui nous lie à ces personnes qu'on voit et de trouver une forme de survivance.
Moi, j'avais l'impression quand même, vous ne vouliez pas que tous ces morts soient morts en pure perte. Qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là.
Oui, bien sûr. Ah oui, si la réparation dans ce sens-là. Elle est en tout cas que quelque chose de passe par-dessus le mensonge qu'on a voulu, dans lequel on a voulu les faire jouer. Que voilà, après mon pouvoir reste limité. Enfin, j'en ai conscience. C'est surtout essayer de retrouver une forme de justesse ou en tout cas de j'avais l'impression, j'avais toujours l'image avec ces photos de Thérésine, de les éplucher petit à petit, de toutes les couches comme ça de mensonges, de peintures, qui avaient pu les recouvrir, et d'essayer d'arriver à quelque chose qui se trouvait en dessous de tout ça. Voilà, après, c'est une recherche qui est toujours en cours.
C'est une recherche qui est toujours en cours. Alors, dans cette idée de réparation des corps, de processus de deuil quand même, qu'on sent dans votre écriture, j'avais envie de vous parler de votre passion pour les mauvaises séries télévisées.
Ah, ça va être plus léger.
Plus léger. Mais il se joue quelque chose du même ordre dans votre passion des mauvais polars qu'on diffuse à la télé que dans votre travail en général autour des disparus.
Bon, vous savez que parfois j'aime bien détendre l'atmosphère en faisant des petites blagues avant de dire quelque chose de triste et de perturbant. Donc dans cette logique, veuillez attacher votre ceinture, redresser le dossier de votre siège et relever votre tablette. Parce qu'hier, il se trouve que dans le sud de la Floride, le corps d'une femme a été découvert encastré, dans le sens propre du terme, dans un baril de 200 litres de ciment. Lisa Barclay, 35 ans. Une mère célibataire qui vivait avec son fils de 13 ans à Boynton Beach.
Si elle était encastrée dans du ciment, comment ils l'ont identifiée?
Le médecin légiste a pu faire correspondre les empreintes des trois doigts qui étaient restés à la surface.
Elle avait disparu quand?
Il y a une semaine. Où ils ont trouvé le baril?
Des ados sont tombés dessus dans une décharge illégale.
La police locale doit fouiller la zone, il pourrait y avoir d'autres victimes.
C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Des signes d'agression sexuelle?
Ils ne sont sûrs de rien à ce stade parce qu'ils n'ont pas encore retiré tout le corps du ciment.
Couler sa victime dans le ciment comme ça, ça pourrait ressembler à une forme de torture.
Ou bien une contre-mesure médico-légale.
Ou du remords et une envie de se faire arrêter.
Malheureusement, vous avez peut-être tous raison, parce que... Est-ce que c'est... C'est une échographie réalisée sur le baril.
Il
Lisa Barclay était encore en vie quand il l'a mise à l'intérieur.
Hélène Gaudy, c'est spécialement pour vous qu'on a choisi cet extrait de Esprit criminel.
Je suis très flattée.
Vous êtes flattée. Vous avez écrit un très joli texte, un texte très drôle, en disant que vous faisiez partie du petit peuple obscur du meurtre et du canapé, que vous partagiez ça.
C'est un peuple, on est assez nombreux, je crois.
Oui, vous êtes assez nombreux. Et vous êtes interrogée sur votre santé mentale.
Oui, toujours.
Et moi, j'ai vu des ponts, comme ça, entre l'expédition Polaire André et votre plaisir à regarder.
Tout à fait. On m'a proposé d'écrire en fait un texte sur la télé, enfin sur des choses qui pouvaient m'intéresser à la télé. Et c'est vrai que j'ai essayé d'être honnête et de finalement de parler des choses peut-être les moins avouables que je pouvais regarder, dont des séries, voilà, qui finalement sont toujours un peu les mêmes. Hein. On retrouve toujours la même histoire, toujours les mêmes policiers qui boivent un café dans une voiture juste avant d'aller voir le médecin légiste et de voir les pires horreurs. Et je me suis demandé, voilà, pourquoi je cherchais absolument pas l'originalité dans ces films-là, ni la qualité, ni mais juste de revoir tout le temps cette même chose.
Qu'est-ce que vous y trouviez ?
Voilà.
Et alors la réponse ?
La réponse que j'ai trouvée, mais j'en trouverai peut-être une autre petit à petit. Mais on parlait de réparation, mais c'est vrai que tous les polars en fait racontent un petit peu ça. C'est on trouve un corps et bon, on va pas le ressusciter, mais on va comprendre ce qui lui est arrivé et on va lui redonner, on va s'occuper de lui. Il y a aussi ça vraiment très matériellement, quoi. Le corps va être trouvé, pris, examiné, etc.
Il ne sera plus seul.
Il sera plus seul et c'est vrai que il y a ce rapport, on en parlait dans l'expédition, dans ces photos, où finalement ils sont là devant l'objectif pour que quelqu'un un jour les regarde. Et c'est vrai que ça me parle et me happe beaucoup, cette question-là.
Ça vous allège ?
Peut-être. En tout cas, les polars, les mauvais polars du dimanche soir m'allègent, sans doute, ouais.
Parce que les morts retournent dans le monde des morts, puisqu'on s'est bien occupé d'eux.
Oui, parce qu'on s'en occupe, parce qu'on essaye de comprendre. Souvent, on n'y arrive pas tout à fait. Moi, j'aime bien les polars où on ne comprend pas tout non plus. Mais en tout cas, on se pose la question.
Et enfin, ils nous hantent moins.
C'est le but aussi.
Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché. We did. Ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, pas, c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, mais ouais, malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, le bleu sous le beige, malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. C'est là, y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi.
Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché.
Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré
une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Avalanche, c'était pour vous, pour rester dans la thématique de l'émission Hélène Gaudy. L'année 2013, Hélène Gaudy commence avec 1 million de personnes qui manifestent en France contre le mariage pour tous. Et le texte de loi sera adopté 4 mois plus tard. En 2013, on inaugure aussi dans le désert de l'Atacama le plus grand télescope du monde. En avril 2013, le Rana Plaza s'effondre à Dhaka, au Bangladesh. Il provoque la mort de 1138 ouvriers petites mains des industries textiles qui les sous-payaient. En 2013, Nelson Mandela disparaissait. Vous vous en souvenez aussi ?
Oui, tout à fait. Oui.
Et en 2013, Hélène Gaudy, impossible de passer à côté de cette chanson-là.
Libérée, délivrée,
ah ouais.
Je ne mentirai plus
jamais. Oui, c'est 2013,
jamais.
Ça aussi.
Libérée,
c'est la Reine des Neiges, hein ?
Oui, je l'ai vu en plus.
Vous l'avez vu ?
Donc,
vous en pensez quoi ?
Voilà.
Bon, d'accord.
Je m'en souviens plus. Genre, j'avais pas trouvé ça si mauvais.
Non.
Je trouvais qu'il y avait des choses pas mal. Mais...
Donc, c'est une princesse.
C'est vieux, hein, ouais. Dans mon souvenir.
Qui a une malédiction et qui tout geler, quoi.
Ouais, ça, je m'en souviens.
Bon, plus sérieusement, et peut-être plus dans votre goût, en 2013, au festival de Cannes, Tel père, tel fils du japonais Koreeda obtenait le prix du jury.
Mon nom est Keita, 6 ans. Le jour de la 7月28日です。
ケータ、合格おめでとう。
頑張ってますよ、パパみたいになりたいって。
今日前橋の病院から電話があったの。話したいことがあるんだって。
取り違えって。
本当にケータは私たちの子じゃないんでしょうか。
Hélène Gaudy, c'est un film que vous avez vu. C'est une histoire d'échange d'enfants, d'enfants qui ont été échangés à la maternité, qui vivent dans des milieux différents. Et ça interroge les relations parents-enfants, la parentalité. Est-ce que c'est que d'être un père ? Est-ce que c'est que l'amour, en fait ?
Oui, c'est un film qui m'a beaucoup marquée. Et c'est, je disais en les entendant, que même sans comprendre le japonais, il y avait quelque chose qui passait quand même dans la musique, dans la langue. Et ce que j'avais trouvé très beau dans ce film, finalement, c'est un père qui va apprendre à devenir père avec un enfant qui n'est pas le sien, puisque ils font ce truc complètement fou de rééchanger les enfants. Les enfants ont 6 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ils se rendent compte qu'ils ont été échangés à la maternité et ils refont l'échange. Donc, ils se retrouvent avec un enfant qui n'est pas qui est le leur biologiquement, mais avec lequel ils n'ont pas vécu. Et ce père qui est assez coincé, qui est assez corseté comme ça.
Autoritaire.
Voilà, va se retrouver avec un enfant qui a vécu dans une famille beaucoup plus modeste et avec des valeurs complètement différentes. Et il va se découvrir finalement un père différent de ce qu'il pensait être. Pas parce que cet enfant est le sien biologiquement, mais parce qu'il vient le déranger quelque part, il vient l'emmener ailleurs. Et cette question de l'imposture, mais de finalement qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'imposture, qu'est-ce qu'on peut... Peut-être ça rejoint aussi un peu la question de l'échec. Qu'est-ce qui se passe quand on a échoué, quand on ment, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça fabrique. C'est quelque chose qui m'avait vraiment émue dans ce très beau film. Ouais.
Merci Hélène Gaudy d'avoir participé à l'émission.
Merci à vous.
Merci à vous. Votre livre Un monde sans rivage est donc publié aux éditions Actes Sud, comme vos deux romans précédents. Hein.
Une forteresse avait été publiée chez Inculte et ensuite chez Actes Sud, chez Babel. Et plein hiver chez Actes Sud, oui.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui Stéphane Boja. Merci Hélène Gaudy. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite après le flash, ce sera Vincent Josse et son grand atelier. À la semaine prochaine.